Les infos à Washington.
Au micro, Nanit Kalani, il est 19h à Lilongwe, la capitale du Malawi, au sud-est de l'Afrique. Bienvenue à ce journal. En RDC, Kinshasa décrit l'ingérence de Paris et des Nations Unies dans les affaires congolaises. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a dénoncé l'ingérence de François Hollande et des Nations Unies dans la vie politique congolaise. Eddy Issango.
Lors de son point de presse hebdomadaire, le ministre congolais s'est directement adressé à Paris. Lambert Mende s'est même demandé si la République démocratique du Congo était devenue un nouveau département d'outre-mer, issu de nouvelles conquêtes de l'Hexagone. Les porte-parole du gouvernement a estimé que François Hollande avait fait preuve d'une compassion sélective vis-à-vis des victimes des violences ayant fait plusieurs dizaines de morts. En comparant l'ingérence à celle de la Libye par l'Europe, Lambert Mende a vivement critiqué François Hollande et son intransigeance sur les dates de l'élection. Mardi, depuis New York, les présidents français avaient parlé des violences inadmissibles, insupportables. 32 personnes, selon la police, et une centaine, selon l'opposition, sont mortes lundi et mardi à Kinshasa. Les violences ont commencé en marge d'une manifestation de l'opposition pour demander le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre et la convocation de l'élection présidentielle. Le dialogue national doit en principe reprendre demain vendredi dans la capitale congolaise qui a retrouvé un calme précaire.
En République du Congo, l'opposition a accusé ce jeudi à Paris la communauté internationale d'indifférence face au climat de répression instauré selon elle par le président Denis Sassou Nguesso dans le pays et elle a réclamé la libération d'une centaine de prisonniers politiques. Monsieur Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du Congo, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle. Le 20 mars dernier, selon des résultats officiels rejetés par ses principaux opposants, face au refus de l'opposition de reconnaître une victoire volée, le président congolais a placé le pays dans un climat d'intimidation et de dure répression, a affirmé Wabari Mariotti, représentant de la plateforme d'opposition Frocad IDC en Europe, lors d'une conférence de presse. Il a notamment dénoncé une interdiction de manifester et de se réunir, le saccage de 3 stations de radio et de télévision privées et des violences qui persistent dans la région du Poule au sud du pays, soupçonné d'abriter le pasteur Ntoumi, accusé par le pouvoir d'avoir fomenté des troubles à Brazzaville début avril. Au total, près d'une centaine de prisonniers politiques sont détenus sans avoir été jugés. Parmi eux se trouve le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'un des 2 principaux candidats de l'opposition à la dernière présidentielle, a ajouté M. Mariotti. De son côté, le ministre congolais de la Justice, Pierre Mabiala, a affirmé ce jeudi sur RFI qu'au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Démarrage à Conakry ce jeudi du dialogue politique. Opposants et leaders de la mouvance présidentielle se rencontrent pour trouver un calendrier électoral et définir un cadre de discussion. L'organisation des élections locales et communales font partie des priorités de l'opposition. Le point avec John Lindon.
Pour l'opposition, la première journée devrait être consacrée à l'adoption de l'ordre du jour et le cadre du dialogue. Il faudrait aussi se mettre d'accord sur la personne qui aura à présider cette rencontre. L'UFDG, principal parti d'opposition, a recusé le ministre de la Justice, Cheikh Sako, et demande une personnalité connue pour sa neutralité, son impartialité, son expérience en matière de médiation et de gestion de crise. Pour faciliter le déroulement des discussions, le ministre Bourema Kondé avait déjà rencontré toutes les parties pour recueillir leur avis. L'ouverture de ces dialogues intervient près de 3 semaines après la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo. Au cours de ces tête-à-tête, le chef de l'État avait pris l'engagement d'œuvrer pour faire respecter les accords politiques qui sortiront de ces dialogues.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Au Cameroun, 3 civils ont été tués hier soir dans un attentat suicide perpétré dans une localité de l'extrême nord du pays, cible d'attaques récurrentes attribuées aux islamistes nigérians de Boko Haram. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources concordantes. L'attentat s'est produit vers 19h temps universel dans la localité de Diakana, faisant 4 morts, le kamikaze compris, et des blessés. dans un état critique, selon une source proche des autorités régionales. Plus de 40 ans après son annexion à l'Angola, l'enclave du Cabinda située entre les deux Congos revendique toujours son autonomie, difficile à obtenir, d'autant plus que le Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, deuxième producteur d'Afrique derrière le Nigeria. Malheureusement, la majorité des habitants du Cabinda, 400 000, vit dans la pauvreté. Leader dans cette revendication, le Front de libération de l'enclave du Cabinda, le FLEC, ne baisse pas les bras, même si ses membres sont régulièrement victimes d'assassinats. André Tissambou, secrétaire général du FLEC, en parle.
Conflit qui est parti depuis l'annexion forcée du territoire cabinet à partir de 1975. Donc nous, cabinet, déplorons à ce jour la manière dont cette annexion a eu lieu, par la force. Nos revendications sont simples. Nous, on aspire à la vie, on aspire à la démocratie, on aspire à la liberté. Donc c'est pour cette raison que nous, cabinet, nous appelons le gouvernement de Luanda de se conformer à la résolution de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de ces peuples à disposer d'eux-mêmes, de s'organiser politiquement, administrativement, économiquement, culturellement, socialement sur leur territoire. C'est-à-dire nous aspirons à la liberté, à la dignité, à notre identité kabylaise.
C'était André Tissambou, secrétaire général du FLEC. Suite des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le point avec notre envoyé spécial, Timothée Donongmaï.
La réunion sur l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des genres s'appuie sur un nouveau rapport d'experts qui constate que les écarts subsistent entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, a commencé par une attitude négative vis-à-vis de l'emploi des femmes. Le rapport fait plusieurs recommandations, notamment l'élimination des lois discriminatrices à l'égard des femmes en matière d'accès à l'emploi et à la propriété. Notant qu'1% seulement des marchés de fourniture de biens et services est attribué aux femmes dans le monde, le rapport appelle les gouvernements et les acteurs privés à prendre des mesures pour corriger ce déséquilibre. L'autre réunion de haut niveau sur les femmes est consacrée au nouvel agenda pour les femmes, la paix, la sécurité et la médiation. Dans un contexte mondial présentant de nombreux défis allant du terrorisme au changement climatique, la rencontre reconnaît l'importance de la diplomatie préventive et du rôle que les femmes doivent y jouer. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Ici, aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence mercredi en raison des violences qui ont émaillé de nouvelles manifestations à Charlotte. Un homme s'est blessé par balle et se trouve dans un état critique. Salwa Diafaré.
C'est dans cette scène de chaos qu'on entend un coup de feu. Les manifestants se dispersent. Un homme est à terre. Il est grièvement blessé. La ville de Charlotte sort d'une nouvelle nuit d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils protestent contre la mort de Keith Lamont Scott, un Afro-Américain de 43 ans abattu par la police mardi. Les manifestants ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. L'homme blessé par balle est toujours dans un état critique. Le gouverneur Pat McCrory a en outre pris l'initiative de déployer la garde nationale et la police autoroutière pour aider la police locale de Charlotte.
En Syrie, deux violents combats avaient eu lieu ce jeudi à Alep après une nuit de bombardements sur les quartiers rebelles de cette ville, devenue un enjeu majeur de la guerre. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats opposent les forces du régime du président Bachar al-Assad à une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dans le quartier de Ramoussa, dans le sud-ouest de la métropole syrienne. D'après l'AFP, des combats ont également lieu dans les provinces centrales de Homs et Hama. La guerre en Syrie, qui a débuté en mars 2011 après la répression dans le sang de manifestations pro-démocratie, a fait plus de 300 000 morts et poussé des millions de Syriens hors de leur foyer. C'est la fin de ce journal. Je suis Nani Talani. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.